Leadville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc, je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course l'année d'avant qui avait été gagnée par Ryan Sanders, un Sudaf. Que c'était surtout au trou du cul du monde, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Et du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, Leadville, c'est quoi? Donc, j'avais jamais fait de 100 miles. Et dans l'esprit, c'était comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc je me suis documenté et il y avait beaucoup de problématiques.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une figure incontournable du trail français et international de ces 15 dernières années, j'ai nommé Thomas Laure Blanchet. Thomas a notamment écrit certaines des plus belles pages du Grand Trail des Templiers, où il s'est imposé à 4 reprises entre 2007 et 2013. Il a également été sacré champion du monde de trail en 2009 et également fini deux fois dans le top 5 de la Western States, entre autres. Et c'est justement du côté des États-Unis que Thomas va nous embarquer aujourd'hui à l'occasion de la Leadville Trail 100, une course de 100 miles au cœur du Colorado. Thomas va y signer un retentissant exploit alors qu'il s'essayait pour la première fois à cette distance. Plongez avec moi dans ces échanges passionnants, portés par la verve, pour ne pas dire la fougue, de cet athlète hors norme, au précieux franc-parler et à la personnalité si sympathique et attachante. Mais je ne vous en dis pas plus. Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Leadville de Lumière. Bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Thomas, tu es revenu il y a peu, au moment où nous enregistrons cet épisode d'un stage à Tenerife avec l'équipe ASICS. Vous n'avez pas l'air d'avoir été trop malheureux là-bas, ça va, ça s'est bien passé?
Bah écoute Guillaume, merci de m'accueillir au micro. Alors, on n'a pas été malheureux, alors je vais faire mon français. Ouais, mais bon, il n'a pas fait super beau.
Il faisait que 23 degrés, c'est ça?
Ouais, il faisait 23 degrés, puis on a pris de la pluie quand même. Donc moi, je suis désolé, quand je quitte mon Clermont natal pour aller à Tenerife, j'attends
un autre standing.
Ouais, ah oui, un autre standing, s'il vous plaît. Donc, non, c'était.
Le buffet du mardi après-midi n'était pas super en plus.
Macédoine. Ouais, j'avoue que ça nous a on nous a ressorti une salade de fruits qui était déjà de la veille. Donc, non, j'étais pas très content. Mais non, c'était un grand plaisir de pouvoir reprendre un petit coup de soleil dans l'hiver parce que c'est vrai que ça aide à passer l'hiver. Et puis, finalement, quand on est rentré, on est en mode, finalement, tout le monde est en t-shirt en France. Donc, finalement, ça se passe plutôt bien, cette fin d'hiver douce.
Et le printemps qui se profile.
Exactement.
Voilà, les meilleurs jours qui arrivent.
Exactement.
Thomas, on va revenir évidemment plus tardivement sur ton parcours sportif un peu plus en détail. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon plus générale et nous dire un petit peu qui tu es pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains?
Alors, si je me présente d'un point de vue générique, Thomas Laure Blanchet, homme, 42 ans. Brun, 1m80. Dans la vraie vie, je suis kiné ostéo. J'ai un cabinet sur Clermont-Ferrand. Je suis papa de deux enfants, deux filles, 12 et 14 ans. Donc voilà, je suis marié à Anne-Sophie, que je connais depuis que j'ai 12 ans et qu'on aura peut-être le loisir d'en rediscuter tout à l'heure quand on évoquera la course. Et voilà, à côté de ça, voilà, je suis multicarte. J'ai monté une start-up avec un copain, Run Advisor. Qui se développe tout doucement, avec qui on a des perspectives super enrichissantes sur les 2022. À côté de ça, j'interviens, comme tu l'as mentionné, auprès d'une marque, ASICS, dans ma casquette de team manager du team Trail. Grosso modo, ce qui m'occupe.
Tu travailles aussi pour une agence, Ibex Outdoor.
Oui, alors l'agence Ibex, oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler.
L'homme aux 52 casquettes.
J'avais oublié cette casquette-là. Oui, effectivement, à côté de ça, je suis entraîneur dans une structure qui est Ibex Outdoor. Donc, c'est une agence multicarte, mais avec un volet entraînement sportif dans lequel je suis le référent et qui fait également tout ce qui est événementiel. accompagnement de stratégie de communication auprès de certaines marques. Grosso modo, pour ce qu'il en est, au moins des casquettes connues. Et où les moins connus arriveront, mais j'en ai, voilà.
La partie visible de l'iceberg, c'est ça. Il y a déjà quoi remplir, je pense, des semaines assez rapidement et assez facilement avec tout ça.
Bah, oui, j'anticipe volontiers les journées de plus de 24 heures, mais je commence à empiéter sur la nuit, sur certaines journées.
Thomas, on va revenir plus particulièrement sur ta pratique sportive. On va un peu remonter le temps et rembobiner. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans ton enfance, dans ton adolescence? C'était déjà très présent et tu vivais déjà au contact du sport de façon très marquée, ou est-ce que tu tenais à distance du sport?
Oui, on a une espèce de biais de sélection parce que mes deux parents étaient profs de PS. Alors non pas, alors ils nous ont, au-delà de l'aspect culture sportive, je dirais que c'est deux personnes qui ont pu nous, avec ma sœur et moi, nous accompagner énormément et être ultra disponibles pour notre pratique personnelle sportive. Donc on a été des ados assez finalement bons, parce qu'en gros on a eu le loisir de l'évoquer ensemble, mais voilà, j'ai été en équipe de France de triathlon jusqu'à ce que je rentre en école de kiné. J'ai été plutôt baigné dans l'univers sport, physiologie de l'exercice discuté planification d'entraînement assez tôt dans ma carrière. Et puis voilà, on a attaqué l'activité sportive par la natation. Et très rapidement, en fait, la natation, ça occupe une grande partie de votre temps libre. Parce qu'en gros, en natation, on est un peu comme dans une stratégie de la gym où c'est finalement, on s'entraîne énormément. Alors avec des avantages et des inconvénients. Mais je pense que les gros avantages que j'ai pu que je peux en retirer finalement au jour d'aujourd'hui, ça va être quand même d'avoir une espèce de ce goût de l'effort et ce goût du... on va dire du dépassement de soi, parce que en natation, si on n'a pas ce goût de l'effort et ce dépassement de soi, on arrête très tôt. On arrête très tôt.
Ça demande beaucoup de discipline, ouais, particulièrement. Enfin, le sport de bon niveau de toute façon par nature, mais effectivement, c'est plus ingrat peut-être la natation.
Bah, c'est ingrat parce que c'est quand même un seul cadre, assez peu finalement d'interaction avec ses congénères dans la ligne d'eau. Donc, voilà, on en reste à peu près sur je te croise, je te recroise, mais voilà. Et puis voilà, en fait, après moi j'ai une carrière en triathlon. Puis en gros, après ça devenait rapidement incompatible avec la course, avec mes études de kiné. Et du coup, la course à pied était peut-être la discipline la plus simple à pratiquer parallèlement à des études en école de kiné assez complexes, ou complexes d'une part, et puis finalement assez prenantes, quoi. On était sur du 35 heures de cours par semaine, donc c'était relativement incompatible avec de la natation et du vélo. La course à pied était relativement simple. Et puis,
un choix de raison presque, plutôt qu'un choix de cœur?
Oui, alors non, parce que finalement, je dirais que dans le triathlon, peut-être la discipline avec laquelle j'avais le plus d'appétence, c'était quand même clairement la course à pied, et que en fait, c'était un choix de raison par rapport à la problématique temps, mais un choix de cœur également, parce que finalement, la course à pied, faire que de la course à pied, c'était finalement assez jouissif pour moi, parce que j'ai toujours voulu que courir. J'ai fait du triathlon parce que j'étais assez bon en triathlon. Je dirais que je me rejoignais un petit peu dans Laure Manaudou qui disait en fait, j'aimais pas nager, j'aimais gagner. Donc, oui, on a été un petit peu, entre guillemets, élevé un peu à la culture de la performance et de la hiérarchie sportive, en fait. Donc, du coup, rapidement, en gros. Mes choix de carrière ont été, tout du moins avant de mettre au trail, ont été dictés par ma capacité à être performant d'un point de vue hiérarchique.
Ta clé d'entrée sur la course à pied, ça a été donc la route plutôt, ou très vite le trail a trouvé sa place? En tout cas, qu'est-ce que tu as aimé aussi au moment d'aller un peu plus poser le pied sur les sentiers plutôt que sur le bitume? Qu'est-ce que ça t'a ouvert peut-être comme nouveau champ des possibles?
Alors moi, j'habite à Clermont-Ferrand, donc on est Clermont-Ferrand et en bas d'une cuvette, avec en fait en sommet toujours un petit peu cette vision sur le Puy-de-Dôme, qui est pas une montagne forcément, je dirais majestueuse ou je veux dire symbolique, mais enfin, elle est fortement symbolique pour les Clermontois, mais on est un point culminant à 1500 mètres d'altitude, c'est pas non plus foufou. Mais on a quand même.
Ça a de l'allure quand même, c'est beau. Moi, j'y suis allé, j'ai fait une course il y a pas très longtemps, là, la directissime, on descendait d'en haut. Et c'est quand même majestueux, moi, je trouve. Tu es
oui.
modeste.
Bon, alors, en
tu
fait,
contiens
le truc...
ton côté, ton esprit de clocher, c'est ça?
Ah, j'essaye de
Pour
ne pas
pas qu'on
être dans la...
t'accuse de régionalisme.
Ouais, voilà. J'essaye de ne pas être dans le régionalisme pure souche, mais j'avoue que le Puy-de-Dôme a toujours été quand même un petit peu au cœur de ma pratique. Et quand même, malgré tout, même quand je faisais du triathlon avec peut-être un peu plus cette appétence pour la route, enfin tout du moins cette appétence, ce besoin d'être bon en route, j'avais quand même à cœur de... je suis venu à la course à pied par le cross. Et donc du coup, j'ai toujours été un peu meilleur et plus de sensibilité vers le tout ce qui était un peu labour et nature. Donc voilà. Après, je me suis mis au trail plus par défi en mode bon. De toute façon, j'aime bien courir. Et ben, je vais tenter un trail parce que à l'époque, on parle des années 2000, début des années 2000, le trail était un petit peu on va dire le défi. Sans logistique, puisque la mode à l'époque c'était de faire du raid, donc c'était le gros défi nature sans logistique.
Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as eu le sentiment d'avoir compris que tu avais probablement des aptitudes et une capacité à performer qui était intéressante et prometteuse? Est-ce que c'est toi qu'on a pris conscience? Est-ce que c'est le regard qu'on a pu porter sur toi de par ton entourage sportif ou familial? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, là, ça vaut peut-être le coup que je pousse un peu plus loin parce que j'ai des capacités?
Ben voilà, comme je te l'ai évoqué juste avant. Je dirais 20, moi j'avais mon premier trail, j'avais 22 ans, et j'étais quand même globalement dans la stratégie qui voudrait que bah, tu es bon quand tu es premier en fait. Pas tu es bon parce que tu as exploité le plein potentiel de tes capacités en fait. Là, l'idée c'était bon, bah, j'ai fait le trail, j'étais en mode défi, 55 bornes, 2500 mètres de dénivelé, à l'époque ça paraissait fou, alors que maintenant quand tu as 20 ans et que tu n'as pas encore fait l'UTMB, tu es en retard.
Il y avait la Rolex à 40 ans et l'UTMB à 20
Voilà,
ans,
là,
c'est ça?
l'UTMB, ouais, quand tu n'as pas fait l'UTMB à 20 ans, c'est qu'il va falloir quand même commencer à y
Je sais plus si
penser.
c'est 40 ans ou 50 ans la Rolex d'ailleurs, c'est peut-être 50.
Cinq, ouais, on va dire
On
que
a
c'est
encore du temps, Thomas.
50. J'ai
Parce que c'est
encore.
un vrai objectif de vie pour nous, je pense, d'avoir une Rolex.
Mais non, alors le truc, bah voilà, je gagne la course. Et puis en fait, ce qui m'a évoqué, c'est plus en fait en termes de comparaison et de parallélisme par rapport au fait que le deuxième, à cette époque-là, était un coureur qui lui avait l'habitude de faire plus d'épreuves que moi, et finalement fait deuxième de cette course-là, et un mois et demi après, fait quatrième au Templiers, qui pour moi était la course étalon du calendrier français. Donc voilà, je gagne, le deuxième fait quatrième aux Templiers. Bon, bah, c'est évident, l'année prochaine, il n'y a même pas photo, c'est les Templiers. Et en me disant, avec des. Non, ouais, avec des. Peut-être pas des.
Ambition.
Des ambitions toutes mesurées, mais je me dis, oui, finalement, je suis pas si loin que ça du compte, clairement.
Tu t'es essayé à de nombreux formats au fil de ta carrière, évidemment du kilomètre vertical aux 100 miles. S'il y en avait qu'un, quel est le format que tu retiendrais ou ton format de prédilection sur lequel, peut-être à la croisée des chemins entre là où tu excellais particulièrement et puis là où tu prenais le plus de plaisir, quel est le
Alors,
format qui te va le mieux?
moi je suis venu au trail pour gagner les Templiers, et j'ai en fait construit ma stratégie d'entraînement, ma stratégie je dirais de vie plus largement parlant, parce que bah, moi je me suis mis en couple relativement tôt, et que très tôt en fait les vacances étaient tournées vers l'objectif Templier, très tôt les vacances étaient tournées vers une planification pour être bien fin octobre. Donc je dirais que ma distance de prédilection était eh ben, le 50 miles, tu vois, donc, c'est-à-dire autour de entre 70 et 80 km à peu près. Et puis un terrain pas trop trop montagne, mais quand même un peu montagne, pas trop trop courant, mais quand même un peu courant. Je dirais que c'est un petit peu ce qui me ressemble par rapport au fait que je suis issu du Massif Central, où c'est de la montagne, mais pas quand même complètement. C'est du plat, mais pas complètement. Donc j'ai un petit peu élaboré mon profil en lien avec l'endroit où je m'entraîne, et puis les courses dans lesquelles je voulais performer.
Est-ce qu'il y a un moment particulier de course que tu aimes plus que les autres ou est-ce que c'est impossible pour toi à dégager? Est-ce que c'est l'adrénaline du départ, un paysage à couper le souffle, un moment où tu es en pleine aisance et tu es en plein contrôle de la course ou est-ce que finalement tu aimes tout ça dans son ensemble avec ces moments de moins bien, ces moments de mieux? Est-ce que tu arrives à dissocier les choses qui te plaisent dans l'effort et dans ces courses?
Ben, c'est une question, en fait. Je dirais que les moments de bien enfin, coïncident quand même souvent avec une course aboutie. Et que finalement, quand tu as une course aboutie, tu as plus tendance à moins bien te souvenir des moments off, ou des moments où tu n'étais pas très bien. Donc, je dirais que les moments où que j'apprécie plus facilement, bah, effectivement, c'est quand tu as l'impression que tu as maîtrisé le sujet et qu'à l'arrivée, finalement, tu passes la ligne d'arrivée en disant « Bon, ok, je suis premier, bah, c'est bien, mais je suis 2, 3, 4, 5, 12, 20. J'ai quand même l'impression d'avoir réussi à tirer le meilleur parti de ce que j'étais capable de produire ce jour-là. Et que à partir de là, je dirais que les meilleurs moments, c'est voilà, quand tu commences à prendre conscience que voilà, le gâteau n'est pas si mal. Il n'y a pas la cerise aujourd'hui, mais finalement, mon gâteau, je suis assez satisfait de mon gâteau. Et donc, en général, c'est le dernier tiers de course, tu vois, où tu as vraiment l'impression. Après, si je devrais me souvenir, enfin, retenir à un moment donné qui est assez sympa, je trouve, en trail, et qui a assez peu, finalement, dans les autres courses ou courses à pied qui graviteraient autour de l'environnement course à pied, c'est que on a quand même la capacité en trail à souvent partir de nuit, ou tout du moins avoir une partie de nuit. Et cet moment où finalement ça fait quand même un petit peu de temps que tu cours et que le soleil se lève, voilà, tu dis ben ok, ben maintenant c'est parti, la journée s'élance, et que voilà, le fait d'être dehors avant le lever du soleil et de voir ce lever du soleil en pleine nature, je trouve il y a quand même toujours une petite symbolique vers l'ouverture du champ du possible et toujours une espèce de moment en disant ouais, en fait on n'est pas grand chose, ce soir ça va quand même se coucher, donc je vais essayer de passer une belle journée.
On va beaucoup parler de la Leadville 100 aujourd'hui à l'occasion de cet épisode. Tu as couru évidemment bon nombre d'autres courses mémorables un peu partout sur le globe, en France, mais aussi ailleurs. Je vais te demander de façon assez express, en mode quiz, un peu de me dire quelles ont été, pour différentes raisons, les courses qui t'ont particulièrement marqué. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant ?
Je dirais que Grand Raid est, ouais, le Grand Raid. Je pense que je n'ai pas du tout le profil. Le timing pour moi pour préparer le Grand Raid, il est pas bon. Ma femme est prof, j'ai deux filles, donc globalement le gros de la préparation se passe globalement en été et c'est presque la partie de l'année où j'ai envie d'être le moins disponible pour m'entraîner. Donc Grand Raid pour moi c'est clairement la course qui me posera, j'en sais rien, parce que j'en sais rien si je me remettrai un jour au départ, mais qui me pose le plus de problèmes et dans laquelle j'ai l'impression d'être le moins apte.
La course la plus surprenante
La course la plus surprenante
En bien ou en pas bien d'ailleurs, une
ouais,
surprise.
Bah, ça va pas être forcément très, très, très changeant, mais je dirais que Leadville a été surprenante dans plein d'aspects, on y reviendra, mais dans l'aspect avant, pendant et après.
La course, tu t'en es particulièrement mis plein les yeux. Il y en a beaucoup, j'imagine.
Ouais, il y en a beaucoup.
Le
plein
grand
les
raid
yeux.
Encore.
Alors, ouais. Le grand raid, oui, clairement. Alors, bon, je vais la classer dans la catégorie des courses, mais je dirais que c'est la PTL. J'ai jamais très bien performé sur des courses ultra de distance à Chamonix. Donc, j'avais toujours un peu à cœur de me dire, OK, un jour, il va quand même falloir que je passe une ligne d'arrivée à Chamonix. Et j'ai eu l'occasion. D'un timing parfait avec deux amis proches qui m'ont permis d'arriver sur la PTL. Ouais, clairement, c'est quand même une course à part. Et là, j'en ai
même
vraiment...
connaissais bien la montagne d'ailleurs. Il t'apportait aussi toi cette connaissance sur laquelle tu te sentais peut-être moins à ta main, c'est ça ?
Bah, clairement,
très complémentaire comme profil.
Voilà, on était complètement complémentaires. C'était les deux profils de mes deux collègues étaient juste mes bons de sortie, c'est-à-dire que c'était un guide d'haute montagne et un cardiologue. C'était à peu près mes deux bons de sortie autorisables par mon épouse.
La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance, la panne moteur monumentale que tu n'as pas vu venir
L'UTMB. J'y allais avec des ambitions très rapidement qui ont volé en éclats et que, oui, grosse panne moteur à Courmayeur.
Et enfin, la course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une, la première que tu raconteras à tes petits-enfants, on saute une génération, par laquelle tu commences
Je pense que la première course que j'oublierai, je pense jamais, c'est peut-être, je vais dire, ma première victoire au Templier, parce que c'était en fait l'aboutissement d'un processus, je dirais, de choix de carrière, de choix de vie, de choix de sport. Et donc finalement, ça a bien performé à ce moment-là, donc je dirais que 2007... avec cette première victoire au Templier, ouais, je pense que je m'en souviendrai un petit peu tout le temps. Ouais.
Une question encore relative aux courses en elles-mêmes. Quels sont pour toi les ingrédients pour que la course soit réussie ? Qu'est-ce qu'elle doit avoir à tout prix ?
Je pense que pour qu'une course elle soit réussie, il faut que les ingrédients, que celui qui va mettre les ingrédients dans la préparation soit conscient des ingrédients qu'il met. Je dirais que je m'explique, c'est-à-dire que je pense qu'une course elle est réussie parce qu'elle correspond Alors, un profil physiologique, certes, mais aussi un profil de vie. C'est-à-dire que, bah, justement, je t'évoquais le grand raid où je pense que je ne serai jamais bien prêt parce qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de m'entraîner beaucoup, beaucoup l'été. Faut que ça soit, faut bien que ce soit assimilé par l'athlète ou par le coureur quand il va préparer et mettre cette course-là sur sa préparation parce que une course, elle impacte une phase de préparation. Et moi, je prends autant de plaisir à m'entraîner pour la course que faire la course. Et j'estime que pour une course, elle soit réussie, faut que ce soit un espèce de package complet entre préparation pour cette course-là et la course. Et auquel cas, faut que cette préparation, elle s'inclue bien dans la vie de tous les jours de la personne.
On va refaire un petit bond dans le temps, mais cette fois, on revient à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement de la place que tient la course à pied à titre plus personnel? Aujourd'hui, on sait que tu t'es mis en retrait de la compétition depuis un certain nombre d'années. Malgré tout, il peut t'arriver en tout cas d'être tenté ou de réaccrocher de façon très ponctuelle quatre épingles et puis mettre un dossard au milieu. C'est quoi ce qui te donne envie de parfois te dire que tu peux y retourner et au-delà de ça, dans ton quotidien, quel est ton rythme aujourd'hui de course et à quel point ça vient s'inscrire dans ta vie et dans
Ben,
toutes tes casquettes?
je dirais que moi, la course est en fait pour moi est structurante et équilibrante parce qu'à un moment donné, je pense que quand je cours pas suffisamment souvent ou régulièrement ou tout du moins quand j'ai pas à un moment donné une stratégie d'évasion physique de mon quotidien, je crois que je suis rapidement chiant.
Et de mauvaise humeur ou pas
bon, pas de
aussi?
mauvaise non,
Non.
bon, de mauvaise humeur, oui, peut-être. Je vais être complètement. Pas du tout objectif avec moi, mais je pense que je dois être assez pénible à vivre et que du
Justement,
coup
j'ai un témoignage de ta femme que j'ai enregistré qui va que je vais faire écouter à tout le monde là. C'est un mensonge.
non, mais voilà, je pense que là, alors je pense que c'est équilibrant la course à pied actuellement, c'est hygiénique parce que on est vite sédentaire dans nos vies, de citadins urbains. Donc je pense que c'est bien et c'est hygiénique au moins d'aller essayer de se mettre cette petite dose de course à pied. Puis moi je pense que par rapport à mon quotidien où j'accompagne quand même beaucoup beaucoup de coureurs, je baigne quand même beaucoup dans la course à pied. C'est surtout crédible de continuer à pratiquer. Donc voilà, ça me permet quand même de garder un pied dedans, de continuer à avoir un discours cohérent avec les tendances du moment, les courses du moment, les parcours,
Toute la
ainsi de suite.
légitimité qu'il faut préserver cette légitimité au-delà de l'expérience, être up to date,
Exactement.
encore dans le coup. Et donc justement, tu nous l'as dit en introduction de cette introduction, tu es aujourd'hui coach pour ASICS notamment et tu accompagnes un certain nombre de coureurs. Quel plaisir toi tu y trouves et quel est ton moteur derrière ce rôle? Et puis si tu devais synthétiser, c'est l'exercice pas forcément très simple, mais en deux, trois notions ou deux, trois valeurs, qu'est-ce que tu as envie qu'à ton contact, les personnes que tu encadres, avec quoi ils doivent ressortir s'il y avait deux, trois idées clés, qu'est-ce que toi tu veux leur transmettre de ton savoir?
Bah, en fait, là, en gros, il y a deux casquettes effectivement d'accompagnement général. Je dirais que sur la partie ASICS, mon accompagnement, il est plus en lien avec on va dire une personne ressource. Donc, ça serait de l'entraînement, mais aussi par exemple des choix de course, des choix de carrière, des choix de matériel, des choix de planification, de façon un peu plus large. Pour la partie BEX, je dirais que mon accompagnement, il était plus en lien avec une suite logique d'accompagnement par rapport à l'athlète blessé. J'avais quand même beaucoup, beaucoup de problématiques avec la personne qui est blessée. Elle a souvent, la plupart du temps, en lien avec des erreurs d'entraînement. Et que, en gros, au lieu de m'arrêter dans mon accompagnement une fois que la personne elle peut reprendre l'entraînement, eh ben, en fait, continue pardon, à l'accompagner pour éviter de réitérer les mêmes erreurs d'entraînement. Donc, proposer finalement un accompagnement plus général de avant, pendant et après la blessure. Voilà, ça serait l'idée. Après, pour tout ce qui va être des conseils généraux, pardon, ça serait, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que la course à pied s'inclut dans une pratique, enfin, dans une vie souvent très prenante et que sans rester dans. Va dire que d'une pratique loisir, on peut être performant, mais il faut quand même que ce qu'on disait, c'est que le sport doit être au service de votre vie en général et pas l'inverse, quoi. Et que je dirais que la pratique du sport, et notamment du trail, qui reste quand même une discipline complètement mineure, j'aime bien reprendre des phrases ou tout du moins des idées d'Éric Lacroix, qui était sur l'aspect, en fait, il y a une grande différence entre réussir sa vie et être performant. Donc, j'essaye quand même d'inculquer ça un petit peu à ceux qui pourraient avoir envie de m'écouter et que globalement, en gros, faut quand même rester dans un truc, dans une pratique équilibrante.
Dernière question de cette première partie, Thomas. On l'a dit également, tu es entrepreneur, donc tu as développé avec des fidèles partenaires de l'application RunAdvisor. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a décidé à lancer dans ce projet ? Habituellement, on sait que des initiatives comme celle-là sont portées par un besoin personnel, parfois inassouvi. On se confronte à quelque chose en disant « mais ça n'existe pas, moi j'en ai besoin, il faut que je me lance ». Puis est-ce que tu peux nous en dire plus sur les services qui sont aujourd'hui proposés par RunAdvisor ?
Alors là clairement, RunAdvisor, on est dans la stratégie de la start-up en mode… j'ai un de mes plus chers amis en fait qui a eu une expérience on va dire fluctuante, oui, ou tout du moins réussie avec une première start-up, et donc il cherchait à remettre le couvert sur une start-up en lien avec notre sensibilité commune qui était en lien avec la course à pied. Donc tu as toujours ce pote avec qui tu cours et tu dis ouais, tu trouves pas ça serait pas une bonne idée si on faisait ça, et que à un moment donné ça a été une espèce d'alignement des astres qui dit non seulement c'est une bonne idée mais en plus on va le faire. Et donc
c'est
du
Mathieu,
coup là,
ça, Mathieu Fillon.
C'est Mathieu Fillon, voilà, et avec qui on a partagé du pacing de marathon, des sorties en montagne, et que l'idée générale du projet c'était et si on proposait une application couteau suisse tout en un, avec justement une aide au choix de chaussures, un calendrier, des magasins, tout un environnement running friendly autour de la course à pied, le restaurant, l'hébergement.
Avec une dimension communautaire très marquée.
Voilà, avec plus on participe à l'application, plus on capitalise des points qui vous donnent des avantages sur une plateforme communautaire, et plus on participe à partager ses parcours, plus on participe à partager ses bons plans, plus finalement on a une capacité à grandir un cercle vertueux pour capitalisant des avantages sur nos partenaires. Et que l'idée c'est justement, moi je suis très je donne assez facilement, et le concept de partager son territoire, partager ses bons plans, partager son point de vue sur la pratique, je trouve que pouvoir le réunir dans une application, c'était vraiment ce qui m'avait motivé à poursuivre cette aventure-là.
Tout se passe comme prévu, vous êtes en ligne avec votre roadmap et la trajectoire que tu imaginais ?
Oui, alors on a eu une première année finalement assez conjoncturelle,
Le Covid dans les dents.
Ouais, avec une conjoncture favorable, puisque finalement on s'est retrouvé avec pas mal de temps libre, puisqu'on a lancé en 2019, donc en 2019 tout le monde avait un peu de temps, fin 2019, début 2020, donc tout le monde avait eu beaucoup beaucoup de temps, donc on a eu du temps pour peaufiner les choses et lancer correctement la fusée. Et là la fusée, il y a des hauts débats, hein, c'est le principe même de la start-up, hein, mais globalement si on prend un laps de temps relativement long, on est plutôt dans plutôt largement au-dessus de notre guideline.
Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Thomas pour cette première introduction. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportif, des trois questions de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ?
Un personnage fictif, ok. Je dirais que... Personnage fictif, je ne sais pas s'il est très fictif. Mais
t'es un héros d'enfance ?
Non, mais je dirais que là, actuellement, je suis en train de regarder une série et j'aime bien les Peaky Blinders. Donc, je dirais que le personnage principal, Tom, j'aime bien sa vision des choses, avec ce côté un petit peu, des fois un peu junkie. Mais en gros, quand on veut avoir gros, il faut miser gros. Et je serais un peu là-dedans.
J'ai pas vu la série, mais j'ai en tête. Ils n'ont pas l'air très fréquentables quand même. J'ai l'impression que tu es un peu plus fréquentable.
Au moins en façade.
Deuxième question. Si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Eh ben, je vais prendre un ibex.
Je ne sais pas ce que c'est. Agence.
Je sors ma science, mais on va dire que là, on est complètement dans de la culture avec la confiture. Non, ibex, moi non plus. Quand j'ai eu Simon l'associé dans la structure, ibex, et en fait, c'est un animal. Grosso modo, on est dans le petit chamois.
Ça doit être mignon.
Oui, c'est mignon. C'est mignon. Ça, voilà.
Mais on en trouve en Auvergne ou pas ?
Non, je crois pas qu'on en trouve en Auvergne. Non, en Auvergne, on trouve souvent des choses qui nous ont été rapatriés d'ailleurs. On fuit l'Auvergne.
À tort, j'en suis sûr.
Exactement.
Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, tout sport, toute époque confondue, pour lequel tu aurais une admiration peut-être particulière ou un respect en tout cas sur son parcours sportif ou peut-être plus généralement sa personnalité, sa façon d'être ?
Alors moi j'aime bien les sportifs qui sont entre guillemets pas les tauliers mais des pionniers qui ouvrent la voie qui ouvrent le champ du possible par rapport on va dire au peloton et à leur non contemporain mais qui la voie est tracée. Donc là en fait on en a plein, ça peut aller du navigateur, ça va aller jusqu'à, mais je veux dire, si on reste un petit peu dans l'univers course à pied, je dirais qu'un Émile Zatopek qui a ouvert une vision différente de la course à pied, un Kylian Jornet avec une vision bien avant, je pense que on se rendra compte peut-être bien plus tard que Kylian a marqué bien plus que simplement qu'uniquement via ses performances. Voilà pour globalement ce qui tournerait un petit peu autour de l'environnement proche de la course à pied.
Merci beaucoup Thomas, le moment est venu de parler de ta course épique, la Leadville Trail. J'hésitais entre dire là ou le, tu vois, est-ce qu'on dit comme c'est un ultra, on dit le, puis c'est comme c'est une course.
Alors je crois qu'on dit là. Ouais, parce que comme on dit, c'est comme la race, on aime bien franciser tout ça, donc comme c'est la Leadville Race, parce qu'on dit une race, donc ouais. Tu vois, moi, la Leadville, ouais, je dirais que pour moi.
Allez, bon, je ferai peut-être. Je me planterai peut-être une fois ou deux, mais en tout cas, je vais essayer de rester sur le là. Donc, je vais planter le décor de cette course. Donc, la Leadville Trail 100, c'est un ultra qui est organisé chaque année depuis 1983 près de Leadville au Colorado, donc aux États-Unis, sur un parcours de sentiers et de forêts et de chemins de montagne au cœur des Rocheuses. Et c'est l'un des événements de trail les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde. Le parcours de ce format 100 miles, soit 160 km, est composé d'une boucle en aller-retour de 50 miles chacun, donc pour un dénivelé total d'environ 4800 mètres, tout cela à une altitude qui est aussi entre 2800 et 3850 mètres. De manière générale, moins de la moitié des participants arrivent au bout de la course, dans la limite des 30 heures qui sont autorisées. Une particularité notable de la course, et tu vas y revenir un peu plus tard, Thomas, les coureurs ont la possibilité d'être accompagnés non pas par des paceurs, mais par des mules sur la boucle retour, mais tu vas nous raconter un peu plus en détail. Et donc voilà, cette Leadville, elle est accessible sur tirage au sort, et elle a réuni en 2012, année de ta participation, donc ça fait déjà 10 ans. 795 athlètes qui étaient venus de 43 États des États-Unis et quand même aussi des coureurs issus de 16 autres pays que les États-Unis. Et au rayon palmarès, donc un fait qui est particulièrement notable, aucun Européen et aucune Européenne n'avait réussi à s'imposer sur la course entre donc sa création en 1983 et l'année de ta participation près de 30 ans plus tard. Voilà, on est tous incollables sur la Leadville. Mais avant de nous plonger dans cette course, il y a une rubrique qui chatouille un peu dans l'épisode et dans ce podcast qui s'appelle la question qui pique de course épique. Voilà, c'est une question très gentiment piège et évidemment très bienveillante, tu me connais, que je pose à chacun de mes invités. On est en ce moment donc en pleine période olympique, puisque après les Jeux olympiques qui sont clôturés il y a quelques jours, qui ont été illuminés côté français notamment par les performances de Quentin Fillon-Maillet, on est actuellement en pleine période de Jeux paralympiques où l'équipe de France s'en sort très bien aussi. L'occasion rêvée donc de mêler cette thématique olympique et l'État américain où se tient la Leadville, le Colorado. Donc la ville de Denver, qui est la capitale du Colorado, elle connaît depuis les débuts des années 70 une relation qui est pour le moins contrariée avec l'olympisme et plus particulièrement avec son comité d'organisation. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi ?
Alors là, j'adore ce genre d'anecdote. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne en sais strictement rien. Mais alors, je suis tout ouïe.
Eh bien écoute, figure-toi, alors c'est devenu un peu plus commun aujourd'hui. Mais Denver a été la première ville de l'histoire qui a refusé les Jeux Olympiques après les avoir obtenus. D'accord. Donc elle a été désignée en 1970 pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Et dans le dossier de candidature, il était annoncé en tout cas que 80% des installations existaient déjà. Et en fait, ce joli scénario s'est fracassé un peu à la réalité économique, puis la volonté d'un homme politique, Richard Lamm, qui a découvert qu'en fait le budget avait été totalement sous-évalué, donc de 20 millions de dollars, qui à l'époque était énorme puisque le budget avancé était de 15 millions. Et donc, il a forcé l'État du Colorado, ce cher Richard, à demander à ses électeurs, donc le 7 novembre 1972, qui était aussi le jour de l'élection présidentielle américaine, de se prononcer sur la question de savoir s'ils étaient OK pour mettre la main au portefeuille afin de régler l'addition subitement salée de ces Jeux de Denver. Et donc voilà, Richard Nixon a été élu président américain. Et pendant ce temps-là, 6 habitants du Colorado sur 10 ont dit non à ces Jeux en parallèle. Et donc, la semaine suivante, le CIO a retiré les Jeux à Denver, comme le prévoit le fameux article 36 de la Charte olympique. Tu connais évidemment aussi bien que moi. Et donc en fait, ils ont dû redistribuer ensuite ces JO de 1976. Donc, il y avait 4 villes qui étaient en lice, et notamment Chamonix. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'était une des villes qui avait été envisagée. Et c'est finalement la ville autrichienne de Innsbruck qui a été retenue pour les, les JO de 76, qui est une très bonne année puisque c'est mon année de naissance aussi. Donc voilà, c'est une année qui m'est très chère. Voilà, je ne sais pas si on peut traiter de Denver, de dernier dinosaure de l'olympisme, mais une chose est sûre, en tout cas, ils ont ouvert la voie à des nouvelles villes, puisque depuis, il y a des villes comme Oslo, Innsbruck, à nouveau, Saint-Moritz, Sion, qui ont refusé les JO d'hiver qui sont tenus en Chine là, donc tout récemment. Et Boston, Budapest, Hambourg, Rome et Munich ont passé aussi leur tour pour 2024, ce qui fait bien notre affaire, puisqu'on est quand même bien content d'avoir ces JO à Paris dans quelques années.
Je t'avoue qu'on n'a pas, on nous a jamais demandé combien ça nous coûterait. Hein.
Oui, mais... alors ça, il y a un petit chèque, il faut commencer à économiser, je pense. En tout cas, moi, je suis parisien, je prévois un petit supplément sur mes taxes foncières dans les mois et années à venir.
Mais bon, tu auras plein d'installations, tu es content.
Exactement, je suis absolument ravi. Allez, c'en est fini cette question qui pique. Le moment est venu de rallumer la flamme de ta course épique, mon cher Thomas, et de faire ce petit bond en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter finalement la genèse de cette course et comment elle s'est présentée, l'opportunité de venir de participer pour toi à cette course, puisque ce n'était pas tout à fait prévu à ton agenda?
Ouais, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que cette course, effectivement, avec du recul, je me dis que c'était une évidence, mais pour le coup, quand il a fallu la choisir, en fait, je l'avais pas choisi. À l'époque, j'étais pas chez ASICS, j'étais chez Salomon. Et en fait, en début de saison, on fait plus ou moins notre choix de course et en disant j'aimerais bien faire ci, celle-ci, ainsi de suite. Et moi, j'avais choisi de faire la CCC, sur lequel, à l'époque, c'était un espèce de mini tremplin avant de dire OK, la prochaine fois, je ferai l'UTMB. Mais en gros, j'ai senti quand même que chez Salomon, ils n'étaient pas forcément très motivés que je fasse la CCC. On était déjà beaucoup à faire la CCC et que mon profil était finalement assez peu valorisable sur une CCC. Et donc, ils m'ont dit, non, toi, on aimerait bien que tu fasses Leadville. Et Leadville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc, je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course l'année d'avant qui avait été gagnée par Ryan Sanders, un Sudaf. Que c'était surtout au trou du cul du monde, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Donc, à l'époque, j'avais mes deux filles qui étaient relativement jeunes. Elles avaient 4 et 2 ans. Et ma femme qui était prof. Donc, il a fallu, entre guillemets, amener la truc en mode l'année prochaine, on va aller faire Leadville. Donc, moi, il était hors de question que je me pointe pour une course à 3000 mètres d'altitude tout seul. Donc, en gros, j'ai dit à Salomon, OK, par contre, c'est femme et enfant, et puis un petit peu avant, parce que 3 semaines au moins d'acclimatation, il me dit non, mais pas de problème, on arrivera à caler le projet famille Leblanchet là-bas. Et que du coup, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, Leadville c'est quoi? Donc j'avais jamais fait de 100 miles, et dans l'esprit c'était comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc, je me suis documenté et il y avait beaucoup de problématiques.
La course, elle a un lien particulier avec la France, et plus particulièrement avec les Templiers, dont tu as écrit évidemment certaines des plus belles pages. Est-ce que tu peux nous raconter, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quand même une façon de boucler la boucle. C'est très tendance, la boucle à Leadville d'ailleurs.
Oui. C'est vrai. Alors, en fait, pour la petite histoire, en allant faire Leadville, moi, j'allais faire Leadville avec ma femme et mes deux filles. Dans un projet un peu plus global, mais... en regardant un petit peu plus près, en gros, je fais Leadville et puis je me rends compte que quand même il y a une certaine ressemblance avec les courses un peu à la mode templier. Et en fait, c'était pourquoi? Parce que Gilles Bertrand, l'organisateur des Templiers, avait anticipé, il avait voulu faire la course des Templiers en mimétisme des courses à l'américaine. Et les courses à l'américaine, c'est effectivement beaucoup de courses où en fait ça court quand même pas mal. Et lui, il avait fait un voyage aux États-Unis et il est tombé amoureux finalement de cette vision de la course à l'américaine, pas mal de courses, enfin pas mal de parties roulantes où on court. On est clairement en mode la course à pied est un moyen de locomotion. Et je te parle, je pense que c'était avant 1995. Et donc, en découvrant ces courses-là, il a voulu impulser, on va dire, ce même profil de course sur les Templiers et sur le plateau du Larzac, qui ressemble quand même relativement étrangement à un plateau du Colorado. Et pour la petite histoire, mais en fait, moi, je fais Leadville. Et à l'arrivée de Leadville, je vois Gilles Bertrand et Odile Baudrier à l'arrivée. eux ne savaient même pas que je faisais la course, et moi, bien entendu, je ne savais même pas qu'ils étaient sur la course. Et donc, ça a été un petit peu le... comme quoi, quand tu vas aligner les astres, tu y arrives. Je me suis dit, en gros, je viens faire Leadville, pas forcément comme premier choix, mais finalement, en fait, je me reconnais complètement dans cette course-là, parce qu'elle représente, en fait, finalement, la... en un peu plus long, ce pourquoi je suis venu au trail. Et, en gros, venir passer la ligne d'arrivée et trouver sur la ligne d'arrivée Gilles Bertrand et Odile Baudrier, voilà, j'ai trouvé c'était juste assez...
un bel alignement.
Ouais, c'était juste un alignement parfait.
Est-ce que tu peux nous parler des 3 semaines qui ont précédé donc le départ de la course et ton arrivée en famille? Est-ce que tu as réussi à bien prendre possession des lieux, du terrain et à tirer déjà des premiers enseignements sur ton état de forme, sur comment la course pouvait se présager pour toi?
Eh bien, en fait, quand j'ai su que finalement la course, donc départ de Leadville, c'est la ville la plus haute des États-Unis, donc ça serait du... Voilà,
la plus haute, H-A-U-T-E, hein, pas la plus haute.
Oui, d'accord. Alors par contre, pas du tout. Ouais. Pas du tout.
C'est plutôt minier, c'est ça, hein, de ce que j'ai compris.
Ouais. Voilà, c'est... En fait, pour la petite histoire, l'idée de la course était 80 km, demi-tour, et on revient par la même route. Et les 80 km qui consistaient finalement à aller jusqu'à la mine pour aller découvrir en fait Winfield. Winfield, c'était le demi-tour de Leadville. Et l'idée, c'était que d'arriver suffisamment en avance pour m'acclimater à l'altitude. Et donc, dans cette stratégie-là, moi, j'ai consulté. Je suis quand même quelqu'un qui est un peu jusqu'au boutiste, et que du coup, quand il y a une problématique hypoxie ou tout du moins course avec une dominante altitude. Je me suis rapproché de quelqu'un que je connais plutôt très bien, c'était Vincent Pialou, qui était à l'époque, qui avait fait sa thèse sur l'entraînement en hypoxie entraînement en altitude. Et du coup, il m'a un petit peu drivé sur ce modèle-là, et il m'a dit, si je voulais performer, je le louais une tente hypoxique, et puis je dormais 3 mois sous la tente. Il me dit, honnêtement, tu n'auras pas une plus-value par rapport à y aller un tout petit peu plus avant. Dans la mesure où ton but c'est pas d'être bon en altitude, enfin le but c'est pas de te servir de l'altitude pour être bon en plaine, ton but c'est d'être bon en altitude dans une course en altitude, donc tu gagneras forcément à gagner un petit peu d'acclimatation et de temps d'acclimatation. Donc finalement on est parti début juillet pour une course à peu près mi-août, et l'idée c'est qu'on a fait en fait par palier. On est arrivé, on a été dans un premier temps à Salt Lake City, et avec une course de préparation. Puis en fait, après, nous, on est monté à Boulder, qui était à 1800 mètres. Puis après, on est allé à Breckenridge, qui était à 2200 mètres. Et puis en fait, on a terminé 2 semaines à Leadville. Donc en fait, on y allait très, très progressivement, de façon à avoir une acclimatation intéressante et surtout une capacité à pouvoir continuer à s'entraîner.
Il y a notamment, au-delà du parcours, il y a 2 petites particularités dans la course que j'ai évoquées tout à l'heure. La première d'entre elles et la plus essentielle, c'est cette notion de mule. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle diffère donc, de la notion de pacer, qui est peut-être plus connue en tout cas et que chacun a peut-être plus facilement en tête, et puis nous raconter comment toi, ton casting s'est organisé, parce que c'est quand même assez étonnant la façon dont ça s'est passé. Et le deuxième point, une fois que tu m'auras raconté tout ça et que tu auras partagé ça avec nous, peut-être sur la barrière horaire, qui est un peu particulière, puisqu'il y a une barrière horaire en fait sur la course et pas de différents points d'étape. Enfin, voilà, nous raconter un peu comment c'est
organisé. En fait, les courses à l'américaine, en fait, on a une capacité à pouvoir être accompagné. Et cette accompagné, en gros, pacing, c'est le meneur d'allure. Et ce meneur d'allure, il y a 2 stratégies. Si on prend des courses comme à la Western, où on a un meneur d'allure simple, c'est-à-dire que le coureur est autonome et il peut courir à un moment donné au 80e kilomètre avec quelqu'un qui lui fait cette allure-là. Donc là, on a ce qu'on appelle du pacing. Donc on n'a pas le droit de le pacer n'a pas le droit de toucher ou aider le coureur. Donc le coureur porte lui-même son matériel. Et la différence avec Leadville, qui est le muling. Alors le muling, c'est justement le pacer qui peut lui être une aide au port du matériel, sac à dos, ravitaillement. C'est pour ça que souvent les photos sur Leadville, en fait, les gens sont souvent assez vite dévêtus et sans aucun ravitaillement sur eux. Donc là, la partie muling, en fait, c'est intéressant à Leadville parce que finalement, on peut changer de muling, enfin de muller, au fur et à mesure de la course, et puis chaque capacité à pouvoir changer son de stratégie est intéressant parce que il y a une partie qui est un peu plus vallonnée, donc peut-être qu'on prend quelqu'un qui est qui est peut-être plus à l'aise en montagne pour porter le matériel, et puis une partie qui est un peu plus roulante, donc peut-être que là on va prendre quelqu'un qui a la capacité à pouvoir courir un peu plus vite. Et ben moi en fait mes pacers qui m'ont porté aussi mon matériel en fait ont été plus ou moins un non-choix. Et je me rends compte que finalement dans la vie on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on, enfin on fait avec ce qu'on a au moment où on doit l'avoir. Et moi en gros ben, c'est à l'époque c'était Anna Frost avec qui on voyageait beaucoup parce qu'on était souvent sur les mêmes événements. Et en gros je devais être finalement avoir une stratégie d'accompagnement de la part de l'équipe Salomon. Manque de bol, il y avait une épreuve concomitante avec le Leadville qui était Pikes Peak Marathon. Et donc une bonne partie de l'équipe est allée à Pikes Peak Marathon et a laissé Thomas Laure Blanchet, sa femme et ses deux filles en mode « mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas ». Anna est restée là parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, que ça reste en off.
On le répète à personne, je crois, voilà. Je compte sur nos auditeurs.
Elle était en couple avec Anton Kruprika, donc du coup, forcément, Anton Kruprika, qui était aussi sur Leadville, a permis que Anna Frost reste aussi également à Leadville.
Et mettre des somnifères dans tes...
Alors, Et même, mais pour coup, Anna Frost m'a quand même bien aidé, puisque finalement, c'est elle qui s'est occupée de gérer un petit peu toute cette partie meneur d'allure. Donc, elle a mouillé le maillot pour une bonne partie, et puis elle m'a trouvé quelqu'un qui était assez bien bâti pour justement porter bien plus que simplement mon ravitaillement. Donc ça a été une expérience, je pense, inoubliable, parce que justement, je pense que c'est encore plus beau quand c'est partagé, quoi, et que les courses à l'américaine ont cette capacité à transcender les émotions parce que justement elle est partagée toute la journée.
Et l'autre petit point de détail, c'est ça, c'est qu'on a 30 heures pour faire la course. Et donc, il n'y a pas de barrière horaire intermédiaire, en gros. Si tu as fait 120 bornes sur les 120 à au bout de 30 heures, tu t'arrêtes là et puis voilà.
Alors, moi, quand je suis arrivé, c'était assez, assez bluffant parce que je les trouvais tous un peu kéké, les Américains, à se trimballer dans la ville avec leur ceinturon finisher du 100 miles de machin, finisher de la Western bidule. J'ai dit, ça faisait un peu genre je viens chercher mon dossard avec le t-shirt de la course d'avant. Et je trouvais qu'il y avait une certaine en gros il y avait une grosse valeur ajoutée à cette espèce de ceinturon. Et en fait, avec du recul, j'ai compris pourquoi, parce que en gros il y a effectivement un cut de 30 heures, et ce cut de 30 heures, quel que soit en gros au moment où vous en êtes, si vous faites 30 heures et 5 secondes, si vous êtes à 50 mètres de la ligne d'arrivée, bah, vous ne serez pas classé.
Sachant que 30 heures, c'est peu, hein, c'est ça, tu m'expliquais. C'est clairement peu. C'est moins de la moitié du double.
Moins de la moitié du double, moins l'âge du capitaine divisé par le pi.
La racine carrée, je crois, ouais. Non, bon, c'est moins de 30 heures versus 16 heures à peu près pour les premiers, c'est ça.
Voilà, et donc moi, je fais 16h20, je fais en gros 16h20 sur la course, donc ça veut dire que moins de 30 heures, à 30 heures, t'as clairement pas fait plus du double du vainqueur. Donc, si on faisait ça sur pas mal de courses en Europe, on aurait, ça serait le tollé général, parce que si on enlève à l'UTMB, si au bout de 40 heures on classe pas ceux qui sont derrière, ça en fait une bonne partie. Et donc, du coup, finalement, on se rend compte que le fait que vous êtes finisher classé sur la Leadville, clairement, ça classe une certaine catégorie de coureurs, quoi. Et au bout de 30 heures, alors ce qui est marrant, c'est que le départ est donné avec un coup de fusil. Donc le vainqueur a la cartouche du départ. Et à l'arrivée, les 30 heures sont clôturées au coup de fusil. Et la cartouche est donnée au dernier.
C'est beau.
C'est beau. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs. Moi, j'accorde énormément d'importance à la symbolique, aux images, ça fait énormément de valeur ajoutée, je trouve, à l'histoire de la course. Et tous ces petits trucs là, j'adore moi, quand je vais sur les courses, j'adore ce genre de petites
symboliques. Supplément d'âme, ouais.
Ah ouais, c'est
ça en dit beaucoup sur l'esprit de ceux qui l'organisent.
Exactement.
Thomas, je pense pas qu'on l'ait dit, mais c'est la première fois que tu t'essayais au format 100 miles. Est-ce que tu avais est-ce que c'était possible pour toi d'avoir des ambitions très claires? Alors, si oui, est-ce que c'était des ambitions de victoire? Et puis, juste pour parler de la start list, est-ce qu'il y avait des concurrents, bah, tu as parlé d'Anton notamment, est-ce qu'il y avait certains concurrents que tu regardais un petit peu du coin de l'œil, en tout cas tout particulièrement? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état d'esprit tu étais d'un point de vue plus performance?
Ah bah, à cette époque-là, il n'y avait pas le classement ITRA, donc on ne connaissait pas trop les valeurs, des valeurs vraiment intrinsèques des gens. Donc j'avais bien des noms, Nick Clark, des gens qui faisaient référence à l'époque sur le circuit 100 miles américain. Donc j'avais Anton, en plus à Anton qui avait à l'époque comme pacer, il avait Dakota Jones et Scott Jurek. Donc du coup, toi t'arrivais avec, moi mes pacers, je les connais pas encore, mais Anafros s'en occupe. Donc c'est vrai que pour le combat était assez vite perdu d'avance. Mais du coup, oui, j'avais pas forcément de, j'y allais vraiment sans. Quand je suis sur une ligne de départ, j'ai pas de complexe. Hein. Donc, je pars du principe que si je suis sur une ligne de départ, c'est que j'ai une capacité à pouvoir être performant. Donc, du coup, j'y vais sans complexe. Après, malgré tout, c'était mon premier 100 miles, donc j'avais quand même sans complexe, mais avec une certaine...
Une prudence, peut-être un peu plus qu'à l'habitude.
Ou un peu
de réserve.
Ouais, de la réserve, complètement. Et que du coup, alors, c'est un espèce de 100 miles un peu qui m'allait quand même bien dans mon profil. Si je partais pour faire autour des... Je voulais faire moins de 17 heures. Donc je partais quand même avec une stratégie qui globalement était sur... voilà, c'était à peu près le double de ce que je fais habituellement. Donc c'était pas non plus stratosphérique par rapport à mon format habituel. Chose qui est plus compliquée, par exemple, dès qu'on commence à courir 20 heures, 25 heures, 20... comme un grand raid, comme un UTMB. Donc j'étais quand même sur un profil qui pouvait m'arranger. Mais après, clairement, j'ai eu la chance du débutant, en mode, voilà, je m'étais bien préparé, j'avais à peu près identifié les paramètres qui allaient être pesants pour la gagne. Donc oui, j'étais quand même à peu près bien préparé. Et surtout, je pense que j'y allais avec des ambitions, mais la peur. Et que la peur... évite de faire des erreurs.
Ça y est, nous sommes le 18 août 2012, donc le grand jour est arrivé, enfin c'est plutôt la grande nuit puisque le départ se fait à 4h du matin. Est-ce que tu peux nous projeter un peu dans le contexte et l'atmosphère dans laquelle tu es sur la ligne de départ? Donc on est en pleine nuit, j'imagine c'est compliqué de profiter du décor, mais je crois que c'est aussi, enfin j'ai lu que ça avait été un moment qui avait été assez émouvant pour toi au cœur de cette ancienne ville minière qui vit beaucoup autour de la course.
Ouais.
Quel souvenir tu gardes de cette ligne de départ?
En fait, la ligne de départ, c'est la ligne de départ à l'américaine. Hein. Il y a une arche, une banderole. On est loin de la cérémonie de départ de l'UTMB. Et la nuit a été suffisamment reposante, mais pas tant que ça. Le stress, premier 100 miles, ainsi de suite. Et que du coup, on vit dans un espèce de mobile home. Beaucoup, beaucoup de mobile home à Leadville. C'est pas la ville la plus riche des États-Unis. Donc, on avait réussi à louer une espèce de mobile home. Donc, je dormais dans ce mobile home avec mes deux filles et ma femme. Voilà, grosse appréhension. Le réveil qui sonne à 2h. On commence à préparer, à déjeuner rapidement. Et puis, on va à pied sur la ligne de départ. Et puis là, on sent que l'atmosphère un petit peu, alors fortement symbolique, parce que les gens qui sont aux manettes de la course sont très très à cheval sur tout ce qui va être respect des valeurs, respect des coureurs qui sont sur la ligne de départ, mais avec cet esprit un petit peu à l'américaine sur le trail, à savoir on fait les choses sérieusement sans vraiment se prendre au sérieux. Donc voilà, moment solennel, mais plus solennel intérieur par rapport à pas vraiment de fioriture autour.
Est-ce que tu peux nous raconter les premiers kilomètres de la course ou les premières dizaines de kilomètres, puisque tu avais décidé, tu nous l'as dit, de partir avec un tout petit peu de réserve. Malgré tout, le rythme, ça rigole pas tant que ça. C'est plutôt, plutôt soutenu. Donc, comment se passent ces premières dizaines de kilomètres?
Alors, les premières dizaines de kilomètres, en fait, sont assez, c'est assez roulant. Alors, c'est assez roulant jusqu'à au moins jusqu'au 60e. Donc, je dirais que les premiers kilomètres, entre guillemets, me favorisent par rapport à des gens qui couraient un peu moins vite. Parce que moi, j'avais quand même le profil de quelqu'un qui court plutôt bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... On suit le pourtour d'un lac avec rapidement, en gros, cette grande ligne droite, en fait, qui est assez symbolique sur Leadville. En fait, les photos, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir les photos, c'est une espèce de ligne droite de 10 km quasiment de route qu'on longe. Et que, voilà, le jour se lève à ce moment-là aussi. Donc, toute cette première partie qui se fait de nuit, on ne se rend pas trop compte. Et que, donc, ce qui est assez marrant, c'est que, comme en fait les 80 km du retour sont exactement les mêmes, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un deuxième parcours au retour, parce qu'il y a pas mal de parties qu'on a fait de nuit, qu'on va faire de jour. Donc, le départ est assez... comme tous les ultras d'ailleurs, la première heure, on ne la voit jamais passer.
Tu continues donc cette première boucle, tu es plutôt aux avant-postes, ça se passe bien. Il y a Anton qui, par contre, fait le trou juste après le kilomètre 53 dans une ascension. Toi, tu es comment? Quelles sont tes sensations à ce moment-là? Est-ce que tu prends le parti de garder ton allure et puis de mener ta course à ta main pour l'instant?
Ben là, en fait, il prend le dessus sur cette ascension qui finalement lui correspond assez bien, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus montagneux. On est quand même à 3000 au départ, on est à 3002, ça va monter à 4002, on a 1000 mètres globalement d'ascension sur un chemin alpin, et que du coup lui voilà, il est vraiment dans son élément. Moi je suis quand même dans ma partie où on n'a toujours pas fait le demi-tour, on n'est toujours pas au 80e km, donc c'est pas là que ça va jouer pour moi, et je prends le parti de vraiment monter à mon rythme. Et vraiment sans vraiment me mettre dans le dur. Je laisse l'écart.
Est-ce que le décor, il est absolument magnifique, enfin, est-ce que ce que tu vis là autour de toi, est-ce que c'est absolument somptueux avec ce lever de soleil et tout ça? Est-ce que tu as vraiment l'impression de vivre un moment très privilégié?
Oui, parce qu'en fait, tu es vraiment dans un décor. Alors, on trouve toujours des espèces de raccords entre ces paysages qu'on connaît. Plus ou moins, mais là on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est à 3000 mètres d'altitude, on est dans un contexte un peu particulier, et qui fait que voilà, on apprécie quand même la chance de pouvoir évoluer dans une atmosphère assez épurée, et en fait on est clairement dans la terre des grands espaces. Voilà, là, c'est les États-Unis, terre de grands espaces, la ligne d'horizon pas coupée, voilà, on est vraiment dans le truc où voilà, on se rend compte quand même qu'on a une étendue devant nous qui est difficilement transposable sur un territoire européen.
Ça donne super envie, hein. Franchement, là, j'ai des images, je ne dois pas être le seul, là, mais c'est fou. Non, mais l'imaginaire qu'on a des États-Unis et du Colorado, ça marche à tous les coups. Enfin, chez moi, j'ai l'impression, là, je visualise bien, bien la scène, en tout cas, je l'imagine. Tu boucles donc la première boucle, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui, les 80 premiers kilomètres, donc à la deuxième place, puis tu constates à ce moment-là que l'écart avec Anton ne bouge plus vraiment, donc tu décides d'appuyer un peu l'effort pour essayer de revenir sur la tête, et donc tu vas faire la jonction un peu plus tard aux environs du kilomètre 100 sur Anton, c'est ça?
C'est ça, en fait au demi-tour on se rend compte clairement de l'écart. Alors pour la petite histoire, ça a été arrêté, hein, mais au demi-tour avant on nous pesait, à la remise des dossards. Et on nous pesait au demi-tour pour comparer combien on avait perdu. Et s'ils estimaient qu'on avait trop perdu, on devait s'arrêter pour boire. Donc c'était totalement débile, parce que quand on regarde maintenant les études scientifiques sur le sujet, il n'y a pas aucune corrélation entre le poids perdu et le degré d'hydratation. Mais bon, bref. Mais bon, pour le coup, c'est arrêté. Mais bon, c'était assez marrant, parce que ça rajoute encore au folklore du demi-tour. Mais là, en fait, finalement, je me rends compte que l'écart n'est pas si conséquent après avoir eu un monté, une descente. Et je me dis, je pense que l'écart peut rester comme ça. Et je vois quand même, on se rend compte quand même de la tête des gens, en fait. On voit qu'au demi-tour, il est devant, mais il est beaucoup moins facile que ce que je peux l'être. Et donc, je me dis, de toute façon, je pense que je vais le revoir. Et là, en fait, c'est la partie où Anna Frost prend le relais. Et là, en fait, au demi-tour, on commence à récupérer l'épaisseur. Donc, Anna Frost me fait mon premier relais. Donc, on remonte, chose complètement débile. On remonte ce qu'on vient de descendre. Parce que quand même, il faut comprendre que le demi-tour est juste en bas de la descente. Hein. Donc, évidemment. On fait le demi-tour et on remonte exactement ce qu'on vient de faire. Donc du coup Anna Frost me fait mon pacing, et puis du coup me donne une très très bonne allure sur la montée, et je commence à tout doucement grappiller un petit peu mon écart avec Anton, et que au final je me dis on commence à être dans du derrière ils sont un peu loin, et puis devant je suis en train de revenir, donc on continue à construire correctement les choses.
Tu fais la jonction. Alors, selon la police ou l'organisateur, j'ai lu que c'était au kilomètre 100 ou 110. Comment ça se passe, justement, cette jonction? Est-ce que vous avez un temps d'échange, d'observation, ou est-ce que toi, l'idée, c'est de assez vite essayer de décrocher Anton?
Alors en fait, je reviens sur Anton, où à ce moment-là, il est passé par Scott Jurek. Donc là, ça fait toujours un petit peu. Ben voilà, je reviens sur lui. Et puis, bon, Scott Jurek, je connaissais plus de noms que de. C'est pas, ça n'a pas été un contemporain de ma pratique de sportive. Donc je connaissais parce que je m'intéressais énormément à l'histoire du sport en général, et encore plus en particulier du trail, mais. Du coup, Scott, je connaissais un petit peu son passif avec la western, sa vision des choses. Et que du coup, quand je reviens sur Anton, bah oui, il est accompagné de Scott. Donc, on reste un petit peu ensemble. Mais plus pour récupérer finalement, entre guillemets, moi, de l'effort que je viens de faire. Et puis, je me rends compte que globalement, de toute façon, en 5 km, j'ai repris tout mon écart. Je sais que ça fait quand même pas mal de temps que je vais finalement, je vais plus vite que Anton. Donc, j'ai tout intérêt finalement à rester un petit peu avec lui sans forcément casser mon rythme. Mais je sais que j'avance dans une stratégie plus rapide que lui.
Tu prends donc la tête de la course ensuite. Est-ce que c'est une position évidemment privilégiée, on est forcément content d'être à cette place, mais est-ce que avec une distance que tu connais pas, tu connaissais pas en tout cas à l'époque, est-ce que ça te met une pression un peu différente ou est-ce que tu as quelques interrogations sur cette notion de gestion ou est-ce que tu surfes sur cette espèce d'élan et de confiance parce que bah, globalement les voyants sont tous au vert?
Bah alors les voyants sont au vert. J'étais toujours dans cette stratégie d'être un petit peu en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et puis là, on commence à être dans des chemins qu'on reconnaît du départ et qu'on se dit, OK, bon, je sais où exactement j'en suis. Alors des fois, si on est dans le dur, c'est très compliqué. Mais là, moi, j'étais quand même dans un mode où je contrôlais bien. Je contrôlais bien mon allure, je contrôlais bien mes sensations. J'étais bien ravitaillé. Je continuais à bien pouvoir manger et à m'alimenter. Donc, je commençais à revenir dans des kilométrages que voilà, je me dis il reste 40 km, 40 km, c'est pas non plus voilà, c'est pas la mer à boire, et que au final je commençais à avoir une ambition de passer la ligne première, ouais.
La suite de la course se passe donc sur le même, du même acabit, en tout cas sur le même élan, et tout se passe très bien. Et à une quinzaine de kilomètres de la fin, les sensations ne sont pas forcément évidentes. Et donc, tu es dans une espèce de situation assez paradoxale où le parcours commence à te paraître quand même un peu interminable et tu n'en vois pas le bout. Et paradoxalement, le chrono est juste hallucinant et la performance enfin, sur ces 15 derniers kilomètres, a posteriori, en tout cas, tu vas le réaliser, est de très haute facture puisque c'est vraiment une des meilleures performances qu'il y a pu avoir sur les 15 derniers kilomètres de la course. C'est comment tu vis bah, ces tout derniers kilomètres, justement, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la difficulté et la lassitude psychologique et mentale ou est-ce que c'est aussi encore les bonnes sensations physiques qui font que tu arrives à tenir l'allure finalement
Bah là, en fait, tu vois, on arrive aux 15 derniers kilomètres. En gros, globalement, il reste 2 heures de course. Donc, en gros, ça fait 14 heures que je cours. C'est relativement nouveau, en fait, pour moi, puisque du coup, moi, j'avais toujours été un petit peu autour des 10 heures, maximum 10 heures, allez, 10, entre 8 et 10 heures max. Donc là, c'est nouveau. Donc, j'ai des sensations nouvelles en termes de douleur, en termes de stratégie d'alimentation, tout est un petit peu nouveau en fait. Mais quand même, dans ma tête, j'avais mon plan de marche, je savais très bien où j'en étais, je savais que j'étais en train de faire un bon chrono, que tout était encore ouvert. Alors la difficulté, je veux dire, c'est j'en ai discuté souvent avec des gens qui ont l'habitude d'ultra ou des Kylian Jornet, des François Denne, et que clairement, devant, en fait, les gens ne souffrent pas moins que derrière, en fait. C'est juste qu'ils ont une acceptation, une capacité à accepter la douleur un peu supérieure à ce que, en fait, l'ensemble du peloton va le faire. Et que bah, je me rends compte que oui, je suis défoncé, oui, j'ai mal aux jambes, mais je suis quand même dans une stratégie et dans un chrono où je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien. Et donc, du coup, on me dit, bon, bah, écoute. Quitte à ce que ce soit bien, et ben on va faire en sorte que ce soit très bien. Et donc du coup, je me suis un peu pris au jeu et finalement, effectivement, je fais les 15 derniers kilomètres plus rapidement que le record de la course qui était de Matt Carpenter et qui était de 15 heures à l'époque, qui était 15h40. Et donc je finis extrêmement bien, ouais. Donc ouais, mais je me suis un peu pris au jeu, clairement. Enfin, il n'y avait pas besoin de faire ça pour avoir une course aboutie, mais là, elle était encore plus aboutie parce que j'avais vraiment l'impression de maîtriser mon sujet.
Il y a ensuite donc le petit moment surprise surprise avec Gilles et Odile
Ouais.
sur le bord de la route à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Toi, tu conclus donc ces 160 km à une formidable et géniale première place après 16 h 29 minutes de course et donc tu deviens le premier Européen a triomphé sur ces terres américaines. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as franchi la ligne? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit tout de suite?
En fait, j'étais content déjà de retrouver ma famille et de retrouver mes filles. Et avec ce petit pincement au cœur où je me dis, peut-être que là, je suis en train d'écrire une des plus belles pages de ma carrière. Et en fait, elles ne se rendent pas forcément compte de l'enjeu et de la symbolique des choses. Et pour autant, je suis super content de retrouver les miens. Effectivement, je vois Gilles et Odile, toujours le truc un peu tout hyper bluffant. Je vois aussi Depa. Donc Depa, c'est un speaker que les gens connaissent. Alors les Espagnols connaissent beaucoup. C'est le speaker de Zegama de la Transvulcania, et que pareil, de façon complètement anecdotique, il était là également en me disant qu'est-ce que tu fais là, et oui, et toi. C'était assez marrant de voir tous ces gens qui ont un peu jalonné ma carrière à se retrouver au même moment à 21h du soir en plein fond du Colorado. Je suis assez content de pouvoir avoir cette course assez aboutie et d'avoir maîtrisé les choses. J'aime bien avoir cette capacité à me dire ok, j'avais quelque chose à faire, je suis en parfait petit soldat, j'ai fait les choses propres, ça s'est bien passé, je valide ma première expérience sur 100 miles. Voilà, j'étais vraiment content d'avoir du projet en fait.
C'est comme Hannibal dans l'agence touriste là qui dit j'adore quand un plan se déroule sans accro, là on est là-dedans. T'avais pas le cigare, mais
j'avais pas le cigare, ouais, mais j'étais exactement voilà, le plan sans accro, c'était exactement l'image qui vient. Après la fin est très 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 longue parce que comme tu le disais en fait on fait l'aller-retour, donc voilà, les trois derniers kilomètres tu sais vraiment ce qui te reste.
Est-ce que ça a eu une portée supplémentaire d'être le premier et encore aujourd'hui le seul Européen à y avoir triomphé?
Alors, toutes ces statistiques, c'est pour l'instant le seul, machin. En fait, on s'en rend plus compte après coup que pendant. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai eu presque plus de félicitations quand le bouquin, comment il s'appelle, Born to Run, est sorti. A été traduit en français. J'ai eu presque plus de félicitations post-traduction du livre.
À froid, ouais, c'est ça. Ouais,
que dans l'instant. Tout cet aspect, le chrono, en fait, on se rend compte du chrono et de la qualité du chrono quand finalement, le chrono, on se rend compte que les années passent et que le chrono baisse pas forcément. Donc, on se dit, en fait, finalement, on a fait un truc pas mal, en gros, ce jour-là.
Quelles ont été, tu penses, les clés de ta victoire? Qu'est-ce que tu penses que tu as un peu mieux fait que les autres?
Un peu mieux fait, je pense que j'avais la capacité à vraiment cibler un objectif et que en 2012, on était quand même déjà un petit peu dans cette stratégie de faire beaucoup, beaucoup de courses. Et que moi, j'avais un espèce de projet d'été qui était gagner Leadville et que j'ai ciblé ça de façon assez entre guillemets rigoureuse. Et ça a occupé une bonne partie de mon année à préparer ça correctement et convenablement, que ça s'inclut bien dans mon travail, dans ma vie familiale et ainsi de suite, et que ça a été peut-être ça qui a fait que ça a créé de la virtuosité autour de ce projet.
Est-ce que c'est une course qui a tenu toutes ses promesses ?
Oui, bien au-delà, parce que je pense que ça m'a fait découvrir le trail à l'américaine. J'y allais pas forcément à la... Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'y allais pas forcément avec à la recherche de réponses à des questions, mais finalement, quand je suis revenu, j'avais beaucoup, beaucoup de questions et ça m'avait un peu éduqué vers ce que je voulais faire sur le restant de ma carrière.
Donc, elle a eu quand même un impact assez majeur dans ta trajectoire.
Oui, clairement. Oui. Non, ça m'a eu. Je pense qu'il y a eu un après et un avant Leadville. Non pas sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect vision de la discipline.
Question toujours très difficile. S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de cette Leadville ?
S'il n'y en avait qu'une, je pense que quand ma femme m'attend sur la ligne d'arrivée. Parce que ma femme, en fait, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 12 ans et qu'on a partagé finalement bien plus de choses ensemble que séparément et que... ça rajoutait une sacrée belle pierre à notre construction commune.
Merci beaucoup Thomas d'être revenu avec nous sur cette Leadville. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ton année 2022? On sait qu'il y a beaucoup de composantes dans ta vie professionnelle, personnelle, sportive. Quels sont tes grands rendez-vous de l'année? Qu'est-ce que tu as envie de réussir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tout cas de réussir cette année?
Non, mais mes grands rendez-vous, si je prends mes grands rendez-vous sportifs, je me suis inscrit dans un truc débile fin juin sur de l'ultra distance en cyclisme. Donc je pense que je vais faire en sorte d'éviter de doubler mon kilométrage fin juin uniquement avec la course. Donc essayer de réussir à trouver du temps pour préparer cet événement. Après, d'un point de vue plus professionnel, on est sur un agrandissement de mon cabinet, donc que tout se passe bien, qu'on arrive à ouvrir à temps. Et puis après, d'un point de vue accompagnement sportif, que ce soit sur la structure Run Advisor, IBEX ou ASICS, voilà, que tout arrive un petit peu à se mettre en osmose et à être, virtuose, avoir un cercle vertueux avec toutes ces activités-là, et que je continue à trouver du temps d'être entreprenant, parce que je pense qu'à un moment donné, plus on est entreprenant, et plus on est proactif et plus on est vivant.
On crée les conditions du succès.
Exactement.
En étant actif, en entreprenant, en testant des choses.
Exactement.
Thomas, je te propose de conclure cet épisode, et c'est ma dernière question, avec non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise, une citation qui est un peu l'expression de ta philosophie de vie?
Alors, moi j'en ai plein, et puis j'adore ces petites phrases qui sont finalement anodines, et puis quand on y réfléchit plusieurs fois, on se rend compte qu'il y a un petit peu de fond. Je dirais que je ne sais pas de qui c'est, mais ça guide souvent ma pratique. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Parce qu'au final, on se rend compte que ce que je disais, en étant entreprenant, on est vivant. Ce motto, je dirais que donne du cœur à l'ouvrage.
C'est important d'y mettre du cœur, effectivement. Merci beaucoup, Thomas. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci infiniment de nous avoir fait revivre avec toi cette victoire qui a été marquante à plein des égards, donc au-delà de la seule performance, mais voilà, de ton parcours sportif, pardon. Mais aussi au-delà de ça, ça a été un moment de famille, je pense, que j'imagine inoubliable aussi. C'est des moments privilégiés d'avoir du temps avec sa famille pour vivre ça. Et puis ça donne encore plus de saveur d'avoir des beaux succès devant ceux qu'on aime. Merci aussi d'avoir trouvé du temps pour Course Épique, dans ton agenda qui est extrêmement chargé. C'est vraiment une chance pour mes auditeurs et pour moi d'avoir pu t'entendre partager cette course qui a, comme toutes ces grandes classiques américaines, a une saveur et un exotisme bien particulier. Il n'y a pas à dire, ils savent vraiment y faire et nourrir notre imaginaire, ces Américains. À tous les coups, ça marche. Je conclue cet épisode en te souhaitant plein de bonheur et puis plein de belles choses dans la suite de tes aventures personnelles, familiales, sportives, professionnelles. Voilà, dans tous les registres, je te souhaite de pleinement t'accomplir.
Merci Guillaume. Au plaisir d'écouter. J'avoue que je commence à être un fervent adepte des podcasts. Alors j'avoue que celui-là va quand même fournir un footing relativement long pour le podcast.
C'est l'idée, c'est bien de prendre le temps. C'est comme ça qu'on va en profondeur. Et puis voilà, t'as beaucoup, beaucoup de choses à partager. Donc c'est très plaisant en tout cas. Merci pour ton temps, Thomas. À très bientôt.
À bientôt.
Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.